Chapitre 11. Musée d'Aquitaine, Bordeaux, France. Zach souleva le couvercle du congélateur et sortit la tête pour vérifier qu'il n'y avait personne dans la pièce avant d'enjamber le bac. Décidément, avec un peu d'imagination et d'audace, il était facile de pénétrer dans n'importe quel lieu interdit. Improvisation totale cette fois. Zach était entré il y a 3 heures au musée d'Aquitaine, presque à l'heure de la fermeture. Il avait cherché un coin discret et avait découvert cette remise, derrière les distributeurs de sandwichs, de confiseries et de boissons fraîches. La suite lui avait pris moins de 2 minutes. Débrancher le congélateur, vider les cartons, entrer dans le coffre, attendre. Pas toute la nuit cette fois, seulement 2 heures. Zach errait seul dans les couloirs du musée, simplement éclairé de quelques veilleuses au-dessus des portes. Il apprécia le cadre sobre du bâtiment construit à la place de l'ancien couvent des Feuillants. Marbre rose, colonne d'albâtre, au plafond. Il se laissa guider par le fléchage. Exposition temporaire, trésor d'ailleurs. Les panneaux jaunes indiquaient la direction du grand hall au premier étage. Les quelques caméras de surveillance disposées à l'angle des pièces n'étaient pas difficiles à éviter en rasant les murs. Zach s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Trésor d'ailleurs. Une façon comme une autre pour la ville de Bordeaux d'assumer son passé de port négrier, pensa-t-il. Un zeste d'exotisme, une grande louche d'amitié entre les peuples, 3 pincées de développement durable. Exposés sur les tables, les masques d'Ogon jouxtaient les sagaies kanaks, les poupées inuites, les fétiches yaka. Autant de trophées rapportés en Gironde par des explorateurs plus ou moins célèbres. Un seul parmi eux intéressait Zach. Fernand Navarra. Zach n'eut aucun mal à trouver son emplacement. De grandes affiches présentaient l'aventurier bordelais. Toujours les mêmes. Zach reconnut la fameuse page de Paris Match du 20 octobre 1956 et le titre emphatique « L'homme qui a retrouvé l'Arche de Noé ». Divers articles internationaux reprenaient le scoop, ainsi que la couverture de son fameux livre, aujourd'hui épuisé « J'ai trouvé l'Arche de Noé ». Un montage de photos en noir et blanc montrait Fernand Navarra sur l'Ararat, au pied du glacier Paro, posant avec son fils Raphaël devant la poutre sciée, plus haute que le gamin. Tout était délicieusement désuet dans l'équipement des alpinistes. Les casquettes de tweed portées par les Navarra, les longues chaussettes de laine, leurs pantalons de Tintin. Zach s'approcha. Le morceau d'arche était simplement placé sur la table. En réalité, il ne s'agissait que d'un gros éclat, long d'une 10aine de centimètres et épais de 15 millimètres. Fernand Navarra et ses héritiers, avec un sens des affaires aiguisé, avaient divisé la section de poutre rapportée de la Ararat il y a 50 ans en plusieurs allumettes, destinées à être offertes à quelques privilégiés, à être confiés à des laboratoires, ou plus rarement, à être exposés. À côté du morceau de bois, quelques feuilles tamponnées attestaient de son authenticité. Le regard de Zach glissa sur les expertises de l'Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias de Madrid, de la Faculté des Sciences de Bordeaux, du Centre Technique du Bois. Toutes certifiaient que le bois fossilisé, identifié comme du Quercus robur, un chêne provenant de Mésopotamie, datait de la Haute Antiquité. Une vénérable poutre vieille de 5000 ans. Zach remarqua qu'un fil de fer était agrafé au bois, puis cloué à la table. Le dispositif de sécurité n'avait pas l'air redoutable, mais tout laissait penser qu'il était relié à une alarme. Un bref examen confirma ce doute. Sous les tables, un fouillis de fils électriques se mêlait en une pelote que Zach n'avait aucune compétence pour dénouer. Il devait réfléchir, ne pas se jeter dans la gueule du loup. Zach rebroussa chemin. Toujours en évitant les caméras de surveillance, il se rendit au rez-de-chaussée. Il avait repéré la loge des vigiles à l'entrée du musée, en face du cours Pasteur. Il descendit avec précaution l'escalier monumental, puis se colla contre le mur. Du palier, il pouvait apercevoir la loge. Les 2 gardes, occupés à jouer aux cartes, semblaient totalement se désintéresser des écrans de surveillance derrière eux. Une partie de poker, à en juger par les jetons de plastique posés devant eux. Zach envisagea rapidement quelques solutions. Arracher le fragment de son fil de fer et tenter de fuir au moment où l'alarme se déclencherait, mais il faudrait alors passer devant le poste des gardes. Tenter de débrancher l'alarme. Faire diversion. Comment ? Les pensées de Zach se figèrent. Une petite pastille rouge dansait au plafond de la salle de garde, juste au-dessus des vigiles. Zach sentit son sang se glacer. Il se pressa contre la pierre froide du mur de l'escalier. La tache rouge descendait lentement, comme un insecte méfiant, puis soudain se posa sur la veste bleue d'un des 2 gardes. Un type brun d'une 30aine d'années, carré, sportif. Le genre a aimé vivre la nuit, à apprécier les sensations fortes, à plaire aux femmes, à hésiter entre sa tribu de surfeurs sur l'Atlantique et faire un môme avec une jolie fille. La vie devant lui, croquée à pleines dents. Il leva les yeux de ses cartes, sans doute à cause de la grimace qui défigurait le visage de son collègue, celui qui tournait le dos à Zach. Son doigt désigna la pastille rouge. La détonation traversa le hall. L'instant suivant, le cœur du vigile trentenaire explosa. Son menton carré tomba dans les jetons de plastique. L'autre garde se jeta de sa chaise. Le point rouge courut dans la pièce. Deux autres détonations brisèrent encore le silence. Deux coups de tonnerre. Un écran de surveillance vola en éclats. L'autre balle se ficha dans l'épaule du vigile à terre. Il poussa un cri de douleur, mais parvint à ramper encore quelques mètres sous la table, le nez dans le sang de son coéquipier qui gouttait au sol entre les planches. Son bras se plia, comme s'il cherchait à atteindre un objet dans la poche de sa veste. La pastille se colla un peu au-dessus de l'oreille droite du vigile. Une troisième détonation. Sèche. Un geyser poisseux gicla de la tempe grise du vigile. L'alarme se déclencha juste après. Le cœur de Zach battait à se rompre. Les tueurs, déjà. L'alarme hurlait dans les couloirs déserts. Zach réfléchit à toute vitesse. Le musée se situait au cœur du vieux Bordeaux. La police serait sur place dans quelques minutes. Les tueurs ne pouvaient pas se douter qu'il était là. Il disposait d'une courte avance. Ne plus perdre une seconde. Zach s'élança dans l'escalier, gravit les marches deux à deux. Sur le palier du premier étage, il se dissimula dans l'angle du mur. Trois hommes armés de fusils à lunettes se tenaient dans le hall. Zach faillit se trahir en lâchant un juron. Pour être précis, il n'avait pas affaire à trois hommes. Dans le hall avançaient deux tueurs et un adolescent. À peine plus de 16 ans, évalua Zach. Une face d'ange aux boucles blondes qu'on aurait mieux vu occupée à draguer les filles à la sortie du lycée. Zach s'élança dans le couloir qui menait à la grande salle d'exposition sans se soucier cette fois des caméras de surveillance. Il dérapa sur le marbre lisse lorsqu'il surgit entre les stands. Des frissons électrisaient ses jambes de haut en bas. « Vite, vite !»« Les tueurs n'auront pas le temps de monter, » songea Zach pour se rassurer. « Ils devront fuir pour ne pas se faire cueillir par la police. » Il n'avait sans doute pas prévu qu'un des vigiles déclencherait l'alarme. Sur les photos, Fernand Navarra souriait, les pieds dans le glacier, portant la poutre de l'arche comme le Christ sa croix. Zach arracha le morceau de bois du fil de fer. L'attache métallique ne résista pas. Immédiatement, une seconde sirène se déclencha, plus stridente, moins puissante que la précédente. « Et maintenant ?» Zach passa sa main sur son front trempé de sueur. Impossible de redescendre et de croiser les types. Impossible de fuir par la porte d'entrée. Impossible d'attendre ici les flics. Ou pire, les tueurs. Par la fenêtre de la salle, au loin, Zach crut deviner la lumière d'un gyrophare, même si le vacarme des deux alarmes l'empêchait de distinguer le moindre son provenant de la rue. Il tendit l'oreille. Des pas dans l'escalier. Était-ce le fruit de son imagination? L'écho de son cœur affolé? Ou le piétinement des assassins alertés par la seconde alarme? Zach n'avait pas le temps de se poser davantage de questions. Il dirigea son regard vers la fenêtre, fit en un éclair l'effort de visualiser de mémoire la façade du musée d'Aquitaine. À quelle hauteur le premier étage du musée se situait-il par rapport au trottoir? 4 mètres? 6 mètres? Dans son dos, la porte du hall d'exposition s'ouvrait, béante, sur le couloir. D'une seconde à l'autre, Zach s'attendait à voir se poser sur lui la mortelle pastille rouge. Ne plus calculer. Dans une inspiration subite, Zach arracha de la table voisine un masque d'ogon, un kanaga, en forme de crocodile. Il serra le morceau de la poutre de Navarra dans son autre main, puis courut droit devant lui. Il colla le masque contre son visage au moment où il traversa la vitre. À bout de force, Zach s'arrêta quai Louis XVIII. Sa cheville le faisait un peu souffrir. Un énorme hématome violaçait sa cuisse gauche. Quelques coupures entaillaient ses bras, mais au final, il avait eu de la chance. Au moment où il s'était relevé après sa chute, la police surgissait déjà de la rue Tustall, éclairant la cathédrale Saint-André et la tour Péberlan d'une lumière bleue froide et syncopée. Il avait fui en claudiquant. Aucune trace des tueurs. Le petit prince du crime et ses deux complices s'étaient eux aussi fondus dans la nuit. Zach s'efforça de trouver quelques forces supplémentaires, de ne pas céder à la tentation de s'asseoir sur un banc. Il devait s'éloigner, s'engager sur le pont de pierre, franchir la Garonne. Il avait abandonné le masque d'Ogon en passant devant le monument aux Girondins, place des Quinconces. Il l'avait juste posé sur le visage de la jolie fille de pierre Topless, celle représentant la Dordogne, ou peut-être la Garonne d'ailleurs, il ne savait plus. Il s'arma de courage et reprit sa marche. Ses doigts caressaient dans sa poche le bois rugueux de la poutre de Navarra. Dans la nuit, Zach se fendit d'un sourire de satisfaction. Il avait sauvé l'essentiel, seul contre tous. Zach traversa le fleuve. L'eau de la Garonne, dans le reflet de l'éclairage romantique des réverbères du pont de pierre, semblait se parer de paille d'or. Zach se projetait déjà dans l'étape suivante. Le premier train de Bordeaux vers Toulouse partait ce matin à 5h26. La ligne A du métro toulousain menait directement à l'Université du Mirail, au pied du DIRS, le plus grand laboratoire de télédétection d'Europe. Sa prochaine destination. Après les trois types armés de fusils à lunettes, il allait devoir affronter cette fameuse docteure Cécile Serval. Un petit bout de femme d'1m55. Un génie, à ce qu'il avait pu lire. Il allait devoir la convaincre de le laisser mettre son nez dans le rapport RS2A 2014. Et d'après ce qu'il avait appris sur le caractère de cette Cécile Serval, sortir le livre d'Enoch du Vatican à côté n'était qu'une plaisanterie. Deux amoureux s'embrassaient contre la rambarde de fer du pont de pierre. La cuisse de Zach le faisait un peu moins souffrir.